Vous écoutez France Culture.
Comment 6 heures ?
Jeudi 27 mars 2014. Merci de vous réveiller avec France Culture. Un autre jour est possible jusqu'à 6h30 avec au programme dans un instant Hélène Lee pour la suite de sa série consacrée au reggae, une histoire politique du reggae, aujourd'hui 4e épisode. Et puis en deuxième partie, je recevrai l'écrivain Philippe Mézescaz qui publie au Mercure de France Deux garçons sur son histoire d'amour de jeunesse avec Hervé Guibert. Une autre histoire du reggae par Hélène Lee. Aujourd'hui, 4e épisode, le message des ghettos de Kingston.
En 1958, nous nous trouvons avec un mouvement rasta déstabilisé parce que le pinacle a été détruit. Et par contre, dans les villes, un mouvement urbain rasta qui est en train d'exploser. Il a été forcément très influencé par le pinacle et par tous ces gens qui ont été chassés du pinacle et qui ont débarqué dans les ghettos. Mais il va prendre une forme totalement urbaine et très différente de ce que c'était au pinacle. Donc on a d'un seul coup accès aux instruments. Jusque-là, il n'y avait que des tambours. Là, il y a des cuivres. Il y a toute une scène de musiciens de jazz qui sont des passionnés, qui écoutent la seule émission de jazz de la télé, de la radio jamaïcaine le soir tard, mais les enfants de l'école Alpha où on apprend la musique sont tous branchés à fond sur ce jazz qui lui aussi représente une sorte d'identification, de rédemption
noire, ouais.
De la culture noire. Et donc, tous ces gamins, ils n'ont qu'un rêve, c'est de créer une musique aussi forte que le jazz ou aussi forte que la soul, mais qui soit purement jamaïcaine. Et pour ça, ils travaillent donc avec les batteurs bourrous. Et en l'espace de quelques années, on aura le ska qui va se ralentir un petit peu pour donner le rocksteady. Déjà, le rocksteady, il y a beaucoup de super beaux textes qui font irruption dans cette musique qui est déjà un peu plus lente, qui permet déjà un peu mieux d'écouter les messages. Et enfin, à la fin des années 60, c'est vraiment le reggae qui va dominer la situation avec un rythme très lent, un peu à contre-temps, ce qui fait que même la parole n'est pas posée juste sur le coup de gong ou sur le coup de grosse caisse. La parole est toujours un peu décalée, ce qui permet de très bien comprendre. Ensuite, c'est une musique où il y a très peu de solos. Il paraît par exemple que Bob Marley était un sauvage et que quand on arrivait sur sa musique avec plein de solos de guitare et de trucs qui faisaient du bruit, il calmait rapidement les gars et il leur faisait comprendre que l'important c'était qu'on entende ce qu'il avait à dire. Et du coup, la musique reggae devient avant tout une musique à message. D'ailleurs, ce n'est pas une musique à danser. Je me souviens, lorsque dans les années 70, j'amenais des amis dans une danse à Kingston, ils me disaient « quand c'est qu'on danse ?» Parce qu'une danse, ça voulait dire que tout le monde était là dans l'ombre à écouter la musique, mais on ne dansait pas.
What shall we do now? Hey! Give them in a scrub-a-dub style, yeah. For all the scrub-a-dub fans, hey.
Donc, d'un seul coup, on se retrouve avec cette musique extrêmement forte qui est jouée soit dans des ruines de ghettos où il y a eu des violences, des endroits abandonnés parce que c'est déjà le début de la violence en Jamaïque et qu'il y a des guerres politiques qui font que des quartiers entiers sont rasés, brûlés pour se débarrasser d'un gang politique dont on ne veut pas, etc. Donc, il y a toutes sortes de coins comme ça, un peu glauques, même très glauque dans le ghetto, mais où on peut installer une ligne électrique et dans le noir comme ça, les DJ avec une minuscule loupiote ou une lampe de poche vous passent des 45 tours éventuellement, quand ils ont une petite cabine, ils font l'écho en s'approchant du mur et ils jouent avec l'écho parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de chambre d'écho, il n'y avait pas encore de matériel. Donc, ils ont juste leur micro et le mur et ils font l'écho contre le mur.
Et ces disques, ces 45 tours sans pochette, pratiquement.
Et c'est des 45 tours sans pochette et parfois même sans label. On ne voit même pas ce que c'est puisque c'est le secret des DJ de savoir ce qu'ils font écouter aux gens quand c'est une nouveauté et qu'ils savent qu'ils vont ramener du monde parce qu'ils ont cette nouveauté. Bref, il y a tout ce mouvement extraordinaire qui fait que même si les gens ne sont pas payés, ils vont enregistrer. Et j'ai toujours été étonnée par le foisonnement de cette musique. Quand je l'ai découverte, je me disais, mais il doit bien y avoir 10 ou 20 000 45 tours qui sont sortis dans cette période d'une dizaine d'années. Et après, j'ai demandé à des collectionneurs qui m'ont dit, mais non, mais tu rigoles, c'est 100 000, 200 000. Titres qui sont sortis.
Et est-ce que déjà à cette période, il va y avoir des stars, ou du moins des paroliers, des interprètes, des musiciens, des arrangeurs qui vont s'imposer et imposer leur nom, leur savoir-faire?
Tout de suite. Parce qu'en fait, la musique jamaïcaine, elle a une économie qui est très simple. Quelqu'un qui peut être un chauffeur de taxi, qui peut être un patron de bar, qui peut être un marchand de glace, a 3 francs 6 sous pour enregistrer quelques chansons. Donc, il fait venir des musiciens, il les met en studio, il leur fait faire ce qu'on appelle un riddim, c'est-à-dire une piste instrumentale. Et ensuite, il fait venir des chanteurs et chaque chanteur est obligé d'improviser après des thèmes qui lui sont chers, d'improviser sur la rythmique qu'on lui donne. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le moindre gars qui a un petit peu quelque chose à dire, qui a gribouillé un petit texte sur un bout de papier, il est devant le studio, il attend le producteur, et quand le producteur lui dit « Ah tiens, c'est pas mal ton truc », il faut qu'il adapte sa chanson à la rythmique qu'on va lui offrir. Et donc, en fait, sur 10 gars qui vont enregistrer, il y en aura peut-être 1, 2, 3 qui seront bons, mais il n'y en aura pas 10 qui seront bons. Donc, on enregistre tout ce monde-là, et évidemment, c'est ceux qui ont les textes les plus forts et les plus en prise avec la réalité du ghetto jamaïcain qui vont casser la baraque. I'm gonna put on an iron shirt and chase it down out of earth. I'm gonna put on an iron shirt. Chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space. C'est là que des gens comme Bob Marley, des gens comme Peter Tosh, des gens comme Max Romeo, des gens comme Ken Booth, tous ces fantastiques paroliers, ils ont tous leur papier, leur crayon, et s'ils savent pas écrire, ils demandent à un copain d'écrire pour eux. Mais ils ont tous des textes extrêmement bien construits avec une grande force. C'est pas des choses qu'ils ont. Quand on prend un texte de Ken Booth comme Is It Because I'm Black, par exemple, ou quand on prend un des titres les moins connus de Marley, mais je crois que c'est son premier. Je me demande si c'est pas son premier. My cup is running over. Si on prend la version Lipéry originale, dépouillée de cette titre, c'est vraiment, ça vous déchire les tripes. Et les gars du ghetto qui écoutaient ça, ils en avaient les larmes aux yeux, quoi, parce que c'était leur vie, c'était leur souffrance. Donc évidemment, c'est pas ce reggae-là qui va être propulsé par les multinationales. C'est un reggae qui va être déjà beaucoup plus orchestré, si possible avec des textes pas trop incendiaires. D'ailleurs, même quand les textes sont incendiaires, on s'arrange pour que ça se voit pas. Par exemple, l'exemple du deuxième album de Bob Marley qui s'appelle Burning, est typique parce que si on voit la pochette de Burning, on voit Bob Marley de profil avec un énorme joint dans la bouche. Et dessous, il y a écrit « Burning », sous-entendu, il est en train de brûler son joint. En fait, la chanson « Burning » parle des guerres politiques et du fait qu'on incendiait des quartiers populaires et que les gens se retrouvaient à la rue quand ils ne se retrouvaient pas brûlés dans les flammes. Donc c'est de politique qu'il s'agit, mais on camoufle ça, comme d'habitude, toujours sous la ganja, l'histoire de la ganja, l'histoire des images de marijuana, parce que ça, c'est inoffensif et que c'est très à la mode. Les hippies ont amené ça bien avant que les rastas s'y mettent. Donc on camoufle tout le message dans la fumée de ganja et on fait comme si les rastas ne disaient rien d'autre que ça.
Là, on parle de chanteurs qui sont paroliers, mais est-ce qu'il y a eu des grands musiciens qui vont affirmer ce genre comme un genre à part entière?
En Jamaïque, la star du show business, la star du monde musical, c'est le producteur. Parce que c'est le producteur qui a l'argent, même si c'est un chauffeur de taxi qui a sa journée de paye dans sa caisse. Donc c'est lui qui choisit les musiciens, c'est lui qui choisit le studio et c'est lui qui choisit les chanteurs. Donc c'est lui qui donne la particularité à la musique et c'est lui qui choisit l'ingénieur du son aussi. Souvent, il est en même temps ingénieur du son, mais quand même pas toujours. Et c'est lui qui va vraiment donner sa couleur à la musique. Donc en fait, par exemple, les gens qui connaissent pas bien le reggae vont vous parler de Bob Marley, vont vous parler de tel ou tel chanteur ou de Alton Ellis, s'ils aiment bien un peu le style ancien, ou des Heptones, ou au contraire de Muta Baruka et d'un style plus moderne. Chacun va vous parler de chanteur. Mais en fait, les vrais amateurs de reggae fonctionnent par producteur. C'est-à-dire que quand on va chez eux, c'est les disques sont rangés par producteur.
King Tubby, par exemple.
Alors, King Tubby, c'est un producteur, mais c'est surtout un mixeur. C'est un mixeur de folie. C'est lui qui est arrivé à faire des dentelles de sons qui ont ensuite vraiment essaimé partout. Et puis des gens comme Lee Perry, surtout. Lee Perry, il a un son qui est assez loin du reggae traditionnel milieu de la route. Mais c'est un mixeur d'un tel génie et c'est un producteur d'un tel génie que le monde entier des producteurs et des gens de son ont été fascinés par Lee Perry. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Glenn Brown, qui avait un label qui s'appelle Pantomime, par exemple. Il est très peu connu, on trouve très difficilement ses disques, mais il a un son qui est vraiment le son du ghetto, coup de galoche dans le trottoir, musicalement parlant, quoi. C'est, il y a une force dans Glenn Brown qui fait qu'il est totalement unique, bien que il n'ait jamais, je crois, fait aucun tube international. God's children only come out in the night. Il y a des gens comme Yabby You qui sont des producteurs vraiment que j'aime beaucoup, qui ont une couleur très particulière, très, très douloureuse, très profonde, très mystique. Ou Ayjaman, c'est aussi un chanteur, mais Yabby You aussi, c'est un chanteur, mais c'est avant tout un producteur. On entend moins souvent des musiques de Yabby You, alors que c'est quand même un très grand producteur lui aussi. Il y en a des dizaines comme ça de super producteurs avec tous un son très très particulier.
Alors à propos de son justement, Hélène Lee, pourquoi les amateurs de reggae gardent précieusement ces 45 tours sortis d'un studio, paraît-il légendaire, Studio One?
Alors, Studio One, c'est le studio, c'est le label de Coxon. Et Coxon, c'est le producteur numéro un de Jamaïque. Tout le monde est passé chez lui, pratiquement. On peut dire que vraiment, les gens qui ne sont pas passés chez lui se comptent sur les doigts. On l'appelait l'ascenseur. Il fallait passer par Coxon pour arriver quelque part. C'était un coupeur de canne qui, pour se faire un peu d'argent l'été, était parti aux États-Unis, à Miami, pour couper la canne en Floride. Et en revenant, il rapportait toujours des disques qu'il passait dans le bar où il avait l'habitude de venir, et il avait un pourcentage sur les bières, etc. Et donc, il s'est rendu compte que s'il n'avait pas les nouveaux disques chaque fois, il n'amènerait pas toujours autant de public, parce que le public jamaïcain a une oreille d'une finesse extraordinaire et qu'il lui fallait toujours des nouveaux trucs. Et donc, lui, comme c'était un fan de bonne musique, il retournait chaque fois aux États-Unis, ramenait ses 45 tours. Et c'est ça qui a fait d'abord son immense popularité. Et ensuite, il a commencé à enregistrer, un après l'autre, les gars qui venaient lui proposer des musiques. Et il est devenu le passage obligé de la plupart des chanteurs jamaïcains. De 10 ans, 9 sur 10 des chanteurs jamaïcains. C'est pour ça qu'il est tellement important. Et en plus, il pressait lui-même ses disques. Il les a toujours pressés jusqu'à une période très récente. Mais bon, là, son fils, je pense, a pris d'autres options. Donc, c'était toujours le son des vieux vinyles qui sont en fait des morceaux de vinyle rachetés aux États-Unis, de trucs qui étaient passés au pilon et qu'on recuit et qui donc ils sont épais, ils ont 3 mm d'épaisseur ou 4 mm d'épaisseur, ils sont lourds, il y a des bulles dedans, des fois il y a des bouts de papier, mais ça a un son de vraiment extraordinaire et le son Coxon est irrépressible et irremplaçable. C'est comme le son Lipéri, c'est des sons uniques.
Alors, est-ce que le reggae va changer, va évoluer? Est-ce que la marchandisation du reggae après sa popularisation à travers le monde va le dénaturer? Peut-on parler de récupération des idées? Et bien, toutes ces problématiques-là, on va les développer demain, si vous voulez bien, Hélène Lee, dans le dernier épisode de cette série qui a pour titre « Une autre histoire du reggae ».
Nous serons là.
À demain, Hélène.
À demain.
Littérature maintenant, avec un livre édité au Mercure de France, Deux garçons, c'est le titre de ce livre. Bonjour Philippe Mézascaz.
Bonjour.
Alors bien sûr, on ne vous reconnaît pas sur la photo.
Oui, j'avais 17 ans, donc il y a 43 ans, quelque chose comme ça.
En revanche, on reconnaît l'autre garçon, oui. Hervé Guibert. Et dans Deux garçons, vous racontez cette histoire que nous connaissions. Au goût du moins, les lecteurs d'Hervé Guibert connaissaient, ceux qui ont lu Mes parents, puisque vous revenez sur cette histoire d'amour, sa première histoire d'amour. Diriez-vous la même chose de
oui,
vous ?
Oui, c'est ma première histoire d'amour aussi. Et j'ai attendu longtemps avant de la raconter, parce qu'Hervé l'a raconté dans Mes parents, et avec nos noms, il m'appelle Philippe, donc j'étais...
Et peut-être pas avec votre accord.
Je l'ai découvert quand j'ai lu Mes parents, mais j'étais heureux de cette publication qui raconte cette histoire. Mais moi, ça m'a empêché de la raconter par la suite. Donc j'ai attendu longtemps. Et puis, atteignant un certain âge, les livres deviennent des espèces des ornements de défense contre la disparition, contre l'effacement, contre la mort. Donc il fallait que je raconte cette belle histoire, cette histoire forte.
Mais ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une histoire d'une époque,
oui.
À travers cette histoire d'amour, parce que je dois rappeler qu'à l'époque de ce premier amour entre deux garçons, vous aviez 17 ans, vous venez de le préciser, Philippe Mézascaz, mais surtout Hervé Guibert, lui, en avait 14.
Oui, j'allais avoir 17 ans, lui allait en avoir 14, et il arrivait de Paris, son père... avait été nommé inspecteur sanitaire aux abattoirs de La Rochelle. Et il arrivait à La Rochelle. Et moi, j'étais arrivé de Paris aussi un an auparavant. J'étais venu me réfugier chez ma grand-mère, J'avais quitté mes parents à Paris parce que ça ne se passait pas très bien avec eux, avec ma mère surtout. Donc ma grand-mère m'a recueilli. Et La Rochelle est une belle ville, on s'ennuie un peu. Et puis j'avais un désir qui était né un an ou deux auparavant de devenir acteur. Devenir acteur, je ne sais pas, je ne connaissais pas le théâtre, je n'étais jamais allé au théâtre. Mais être acteur, c'était... Bon, c'est banal, mais c'était être quelqu'un d'autre. Donc nous nous sommes retrouvés là. J'avais décidé de travailler une scène dans ce cours de théâtre, une scène de Caligula, de Camus. Et la scène, c'est entre Caligula et Scipion, le jeune Scipion. Et j'étais l'élève le plus jeune du cours et de toute la troupe de théâtre. Donc je n'avais personne... On m'a même menacé de me renvoyer parce que je ne travaillais pas de scène, parce que je tenais à travailler cette scène. Et est arrivé Hervé, ce jeune garçon. Et j'ai dit, voilà, c'est lui, mon Scipion. Mais je ne lui ai pas demandé directement. J'ai demandé à l'assistante du metteur en scène de lui proposer que nous travaillions cette scène ensemble.
Et le théâtre va devenir aussi le théâtre de ce premier amour.
Oui, mais c'est la toile de fond. C'est le rideau de scène, si j'ose dire, de cet amour. Les tournées, les répétitions. Parce que Hervé va être engagé aussi pour jouer dans une pièce pour enfants. Ensuite, dans Macbeth, où nous jouerons deux frères, les fils du roi Duncan, Malcolm et Don Albin. Et notre histoire se tisse dans ce milieu du théâtre. Ces gens, avec la bienveillance... La bienveillance ou l'indifférence, non, la bienveillance des autres comédiens, du metteur en scène, mais contre le père d'Hervé, contre ma grand-mère aussi, qui, de manière un peu moins violente, mais violemment contre le père d'Hervé, qui était mon rival, parce qu'il formait avec Hervé un couple, c'était un couple étrange.
Et comme l'était la période, hein, parce qu'on aurait pu croire que c'est une sorte d'amour scandaleuse, que les parents, que la famille va s'en mêler, et pas du tout. On voit bien qu'on est dans cette France post-68arde.
Oui, c'était la fin 69-70,
ouais.
et je vois, je réalise, enfin j'ai réalisé par la suite qu'on avait une grande liberté, nous étions mineurs, et nous vivions cet amour au su et au vu de tous. Et si le père...
Comme un acquis fraîchement décroché.
Oui, mais nous n'en avions pas conscience. Nous étions trop jeunes. Enfin, moi, j'avais vécu 68 à Paris, mais j'avais 14 ans, 15 ans. Donc, c'était un jeu. Je n'avais pas de conscience politique. Donc, non. Nous avons vécu cet amour parce qu'il devait être... Il devait être explosé, il devait être là. On n'a pas pensé à l'histoire ou à la société. Simplement qu'il fallait lutter peut-être contre le père d'Hervé.
Mais Philippe Mizescaz, si vous avez décidé de sortir ce témoignage aujourd'hui, c'est bien pour marquer, souligner le contraste qu'il y a avec notre époque, non ?
Oui, je réalise que l'époque, et puis l'époque récente, enfin, quand on voit toutes ces manifestations contre le mariage pour tous, et ces gens d'extrême droite, non, c'est extrêmement violent.
Et comment alors, parce que cette histoire est connue des lecteurs, est connue du moins par la version d'Hervé Guibert, comment on fait pour ne pas tenir compte de ce livre qui existait, de mes parents, et de se lancer dans ce récit comme si c'était la première fois.
Mais c'est tout simple. Enfin, ça n'a pas été simple au début. J'ai mis quelques temps avant de savoir comment j'allais raconter cette histoire. Mais je ne voulais absolument pas la raconter comme des souvenirs. Donc, non, il fallait pas que ce soit des souvenirs. Il fallait pas que ce soit mon histoire avec Hervé Guibert. Enfin, c'était pas la bonne démarche. Et puis j'ai décidé qu'il fallait que j'aie 17 ans. Et l'été où j'ai écrit ce livre, j'ai eu 17 ans, donc je raconte l'histoire au présent. Et c'est un garçon de 17 ans qui raconte ce qui lui arrive au jour le jour, et son amour, et cet amour au jour le jour. Donc ça n'est pas Hervé Guibert, c'est Hervé et Philippe. Bon, il se trouve que c'est Hervé Guibert, bien sûr, mais quand j'ai écrit le livre... J'étais en 1970, en 1969, 70, 71, le temps qu'a duré cet amour. Et tout est revenu très, très précisément, tous les souvenirs. La place aussi de ma grand-mère, je ne me souvenais pas que ma grand-mère avait une place de témoin si importante dans cette histoire. Je l'avais un peu oubliée, un peu masquée. Enfin, et c'était une... Ça, c'était un grand bonheur de faire revenir ma grand-mère.
C'est une histoire d'amour qui rappelle que l'amour est une histoire violente.
Oui.
Et ça se termine d'ailleurs par une histoire, par une scène d'une rare intensité. Hein, ce rendez-vous dans Paris, à l'entrée du métro Franklin Roosevelt, quand Hervé est déjà là, qu'il guette votre arrivée, et qui voit qu'il n'a pas un objet qu'il attend de vous, une photo. Alors il se met en colère, vous accuse de prendre du plaisir à le torturer, il crie, les passants se retournent, et vous dites « Je suis de marbre ». Il attend que je brise le silence, puis il éclate en sanglots et s'engouffre dans l'escalier du métro. La scène n'a pas duré une minute, je reste en haut des marches. Je ne suis pas très fier de moi, je suis vaincu moi aussi, mais je n'aurais cédé pour rien au monde. J'avais tranché le fil d'un amour qui n'existait plus.
Parce que voilà, il faut raconter la fin de cette histoire. C'est que il y a eu une fin non dite, non écrite, non vécue à La Rochelle, et nous nous sommes retrouvés à Paris, jeunes adultes, par hasard.
Ouais.
Voilà. Et il y a une. Il travaillait à 20 ans, et moi je revenais. Habité chez mes parents, enfin, qui avaient gardé une chambre de bonne à Paris, rue de Marignan, et je suis tombé sur lui. Et là, et s'est greffé à nos retrouvailles, qui étaient des retrouvailles un peu forcées, enfin, nous ne nous reconnaissions plus vraiment, s'est greffé un troisième larron qui travaillait avec Hervé, qui était son supérieur hiérarchique, et qui lui avait promis deux photos d'un tapin viennois, en Autriche. Et cet homme, ce jeune homme, c'était un jeune homme lui aussi, un peu plus âgé que nous, mais c'était un jeune homme, a partagé le cadeau qu'il devait offrir à Hervé, ces deux photos, l'a partagé en deux et m'a offert une photo, une des deux photos. Et ce qui a mis Hervé en rage. Et puis il fallait rompre cet amour qui n'existait plus, il fallait le rompre officiellement. Donc j'ai pris prétexte, de manière spontanée d'ailleurs, sans y réfléchir vraiment, de cette photo qu'il désirait vraiment pour rompre le fil de cet amour. Et ensuite, nous ne nous sommes plus revus pendant quelques années, et ensuite nous nous sommes revus plus tard, toujours par hasard, nous n'étions plus amis, plus amants bien sûr, mais plus amis non plus. Et la dernière fois que j'ai vu Hervé, c'était quelques mois avant sa mort, c'était un vernissage de photos... Et nous nous sommes parlé à nouveau, et nous avons parlé de ce passé-là. Sans doute parce qu'il savait qu'il allait disparaître. C'est lui qui est venu vers moi, et nous avons parlé de son père, de notre amour, de ma grand-mère, de La Rochelle. C'est la dernière fois que nous nous sommes vus, que je l'ai vu.
Dans un instant, Marc Vancher pour l'actualité de ce jeudi 27 mars. J'espère vous retrouver demain. Demain, suite et fin de la série consacrée au reggae par Hélène Lee. Et en invité, j'aurai l'immense privilège de recevoir le dessinateur Kilofer. Bonne matinée et à demain.